J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Eau de Radio en ce mardi 3 mars 2026. Il est 14h pile, oui. Encore, comme hier et comme demain sans doute. Le temps est incroyable, on est passé en quelques jours, que dis-je, en quelques heures de l'hiver à l'été, comme ça, en un clinquement de doigts. Le temps est devenu complètement instable, on ne sait plus comment s'habiller, on ne sait plus dans quelle saison on est et on ne sait plus comment se chausser. Mais une chose est sûre, c'est que nous, à six naissants, on est aussi stable que de l'eau de roche. Clair, limpide, comme un diapason. Et pour être au diapason, je suis accompagnée de celui qui joue des notes de musique aussi clairement que de l'eau de roche. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Anne-Lise.
Vous allez bien ?
Oui, très bien. Vous avez un esprit poète aujourd'hui.
Vous avez vu ça ?
Oui.
Je suis très inspirée par le soleil.
Bon.
Mais j'ai aussi celui qui donne une note tellement limpide que même les oiseaux en sont jaloux. Bonjour Patrick.
Bonjour Anise, bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Alors moi
Patrick.
Ce sera un si bémol majeur.
Oui, bah écoutez,
parce
très bien.
Que c'est une très très jolie note.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Oui, très bien, oui.
Dans l'épisode numéro 18 de Cinescent, nous allons aller à la rencontre d'un homme et d'une femme qui nous ont marqué l'histoire du cinéma. Et Patrick, quelle est la personnalité masculine d'aujourd'hui ?
Alors, il y a des acteurs qui jouent des rôles.
Oui.
Et puis, il y a Jean Gabin.
Ah.
Il naît en 1904, boulevard de Rochechouart à Paris. Son vrai nom, c'est Jean Gabin Alexis Moncorgé. Enfant des faubourgs, fils d'un cafetier, chansonnier et d'une mère chanteuse d'opérette. Alors, autant dire qu'il grandit entre coulisses et les refrains populaires. La scène, il la respire très tôt.
Et alors avant le cinéma, il y a eu le musical.
Ben oui.
Gabin y débute modestement, il y fait de la figuration, il apprend le métier quoi. Rien ne laisse encore deviner qu'il deviendra l'un des visages les plus puissants du cinéma français. Et puis il y a cette voix, grave, lente, habitée. Ce regard aussi, un peu fatigué, un peu ironique. Non, Gabin ne compose pas, il est. Tiens, écoutez-le, il parle de lui-même et du métier d'acteur.
Jean Gabin Alexis Moncorgé, qualité comédien. Je suis marié, père de famille, j'ai deux filles et un garçon. J'ai débuté en 1922, aux Folies Bergères. Ensuite, j'ai fait mon tour de chant, j'ai joué l'opérette, et jusqu'au jour où je suis entré au cinéma, c'est-à-dire en 30. Mon premier film était une opérette.
J'en ai vu, croyez-moi, des inepties. J'en ai lu. Et on en a écrit beaucoup à mon endroit, d'ailleurs. Des inepties. Qu'est-ce que oui, il faut le prendre comme ça. Moi, personnellement, maintenant, ça ne me touche plus parce que j'en ai tellement eu que je m'en fous. Je m'en fous totalement, d'ailleurs. Je pense que c'est les journalistes, une certaine catégorie de journalistes, vous comprenez ? Les gars qui font si vous voulez, les chiens crevés dans le cinéma, si j'ose dire. Bah, évidemment, ils vous demandent toujours les mêmes questions. Ils vous demandent ce qu'on pense du rôle, ce qu'on va ceci, ce qu'on va cela. Moi, je leur réponds toujours, mais moi, je pense à rien. C'est ce que j'en pense. Et c'est vrai d'ailleurs, si vous voulez penser, on a un truc, faut le faire, c'est un boulot comme un autre, quoi. C'est un magnifique métier, quoi, c'est un très beau métier, moi je remercie ce métier-là, moi personnellement, j'y dois tout. Ceci dit, j'aime bien le faire bien, mais je suis pas un dingue. Vous voyez ce que je veux dire, je suis pas un dingue de cinéma, si je tourne plus, ça me manquera pas, mais j'estime qu'un gars qui paye une place, qui arrive dans un fauteuil, il vient pour voir... comme on dit en français, de la belle ouvrage.
Magnifique.
Très belle voix aussi, d'ailleurs. Dans les années 30, il devient l'incarnation du réalisme poétique. Ses films où l'amour est intense, mais souvent condamné, où le destin pèse lourd sur les épaules des hommes. En 37, dans La Grande Illusion de Jean Renoir, il est un soldat français prisonnier de guerre, humain, digne, fraternel.
Pardon, c'est peut-être un peu fort. Mais c'est l'année suivante que naît la légende. Dans quoi ? Eh bien, dans Quai des Brumes, bien sûr, de Marcel Carné, face à Michel Morgan, où il murmure « T'as de beaux yeux, tu sais ». Une phrase simple, presque anodine, et pourtant, le cinéma français vient de trouver son mythe. Gabin incarne alors les hommes cabossés, les ouvriers, les déserteurs, les amoureux sans illusion. De ses débuts en 1930 jusqu'en 1939, il ne tourne pas moins de 34 films avec les plus grands réalisateurs, Duvivier, Renoir, Carnet.
Il représente une France populaire, pudique, fière. Les spectateurs se reconnaissent en lui. Il ne surjoue pas, il ne séduit pas, il impose.
Et à la veille de la guerre, bah, il est au sommet. Mais l'histoire va le rattraper.
Alors Gabin a commencé sa carrière par le chant et l'opérette, on l'a vu. Dans La belle équipe de Julien Dudvivier, sortie en 1936, il chante « Quand on se promène au bord de l'eau », chanson de Julien Dudvivier et de Maurice Yvain.
Du lundi jusqu'au samedi, pour gagner des radis, quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers, et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Mais tout ça, ça sent le Front populaire,
ah oui.
1936.
Ah oui. Carrément.
Bon. Alors pour ce qui est de la personnalité féminine, eh bien, elle sera multiple, puisque nous allons donner un coup de projecteur sur les seconds rôles féminins du cinéma français.
C'est une bonne idée.
Oui, c'est pas mal. Hein.
Vous savez, celles dont on connaît la tête, mais souvent pas le nom, et que personne n'est capable de désigner autrement que par « Mais si, tu sais, l'actrice !»
Qui joue derrière.
Voilà, certaines n'ont pas eu la carrière qu'elles méritaient. Et sont tombés dans l'oubli. D'autres n'ont jamais arrêté de tourner.
Concierge ou mégère acariâtre avec un fort accent parigot et une silhouette surmontée d'un chignon à l'ancienne mode, Pauline Carton était la reine de la catégorie rigolote. Elle disait « Quand j'étais jeune, j'avais le visage lisse et des robes plissées. Maintenant, c'est le contraire. » En 69, elle se rappelait son enfance.
Je suis née à Biarritz, ça vous intéresse? Biarritz, joli pays, mais j'y suis restée peu de temps. Ma nourrice se saoulait, paraît-il. Alors de temps en temps, on allait me ramasser dans les rosiers ou dans les tulipes. Alors ça n'a pas plu à ma mère, qui habitait à ce moment-là Madrid et qui était simplement l'été à Biarritz quand je suis née. Alors quand nous sommes retournés à Madrid, toute la famille, on ne m'a pas donné de nourrice, on m'a donné une chèvre. Et alors cette chèvre était charmante car, je ne sais pas si vous savez que Madrid est un endroit très peu fertile. À l'époque où moi je suis née, il paraît que les vaches qui venaient à Madrid pour donner leur lait apportaient sur leur dos une provision de fourrage pour manger ça pendant leur séjour madrilène. Puis elles s'en allaient après restaurées et heureuses. Mais alors, ma malheureuse chèvre, évidemment, avait peu à manger. Mais mon père était sous-directeur d'un chemin de fer espagnol, alors elle avait les concessions de tous les taluds du chemin de fer. Ce qui fait que j'ai été nourrie par une chèvre espagnole et ferroviaire. Ce qui est tout de même assez agréable, ça m'a donné le goût des voyages.
Oui, elle est très rigolote. C'est vraiment la catégorie rigolote.
Ah, c'est vrai.
Alors, toujours chez les rigolotes, tiens.
Vous avez remarqué qu'on disait Madrid. On disait
Madrid.
Oui, Madrid. Pas, oui, oui.
Voilà. Voilà. Mais c'était madrilène quand même, donc on a connu la ville.
Tout à fait.
Alors toujours chez les rigolotes, oui. Tiens, Jeanne Fusier-Gire fut spécialisée dans les rôles de servante, de concierge, de vieille fille à l'air pincé ou encore de pipelette un peu trop curieuse, tandis que Dominique Lavanant imposa l'image d'une BCBG un peu coincée, comme dans Les Bronzés par exemple, où les bronzés font du ski.
Et alors dans la catégorie des dramatiques, Suzanne Flon,
merveilleuse,
à l'allure frêle, à la voix chaude, a décroché le César du meilleur second rôle féminin pour sa composition de vieille dame malicieuse dans L'été meurtrier, récompense qu'elle a obtenue de nouveau pour La Vouivre. Dans Mille lois en mai de Louis Malle, Dominique Blanc incarne une lesbienne qui lui a permis d'obtenir le même César, qui sera suivi par un deuxième pour Indochine.
Citons aussi Anne Alvaro, une tragédienne qui bouleverse Jean-Pierre Bacri dans Le goût des autres, rôle qui lui valut le César. Jeanne Balibar a obtenu 3 Césars pour des seconds rôles pour « Ça ira mieux demain » de Jeanne Labrune, le biopic de Sagan de Diane Curis et « Illusion perdue » de Xavier Giannoli.
On va retrouver Marthe Villalonga en mère abusive de Guy Bedos, Dominique Lavanant, l'esthéticienne, Suzanne Flon en Jeanne d'Arc dans L'Alouette de Jean Anouilh et Anne Alvaro dans Le goût des autres.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu aimes toute la région, tu demandes l'ambulance et on arrive, t'es là, tu fumes ?
La fumée te dérange en plus ! C'est comme la sonnerie du téléphone, probablement. J'ai un éblouissement plein de samaritaine. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant, il veut me critiquer que je suis pas morte. Eh ben, si c'est ça votre médecine de gauche, hein ? Les communistes, ils ont pas intérêt à prendre froid parce que...
Hello ! C'est moi ! C'est Christiane ! Christiane, l'esthéticienne!
Christiane! Mais c'est fou ça! Mais t'as tellement changé, on t'aurait jamais reconnu!
Ouais. Mais d'ailleurs, on t'a pas reconnu! Hein.
Bonjour!
Qu'est-ce que tu veux au juste?
Je voudrais un cheval, messire. Un habit d'homme et une escorte pour m'accompagner jusqu'à Chinon voir Monseigneur le Dauphin.
Va pour le cheval, tu as de jolis yeux.
C'est que je ne veux pas seulement un cheval, messire.
Qu'est-ce que tu veux en plus du cheval?
Une escorte d'hommes d'armes, messire, pour m'accompagner jusqu'à Chinon.
Et qu'est-ce que tu veux aller faire à Chinon ?
Trouver Monseigneur le Dauphin.
Et qu'est-ce que tu espères pour lui ?
Une armée, messire, dont je prendrai la tête pour aller délivrer Orléans.
Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an... Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous ? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus.
Alors on pourrait citer aussi Odette Laure, qui jouait les seconds rôles au cinéma, mais qui était également chanteuse. Bien, on va la retrouver en 57. Elle chante « Ça tourne pas rond ».
C'est l'histoire d'une petite fille... étrange et méchante. Mais comme il y a toujours une explication à la méchanceté des êtres, du moins j'espère, eh bien cette chanson en est une. Elle a été écrite par Francis Blanche et Henri Lecas. On vient de renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des soies maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je pense que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond, dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. Ça tourne pas rond et quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux trois vitres et faire croire après que c'est des courants d'air. Avec une fourchette à huîtres, j'aime piquer les fesses du chat grand-mère. Quand je suis toute seule, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres défendus les photos des messieurs tout nus. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. Ça tourne pas rond et quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Pareil qu'avec de la poigne on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien. J'aime tellement les fleurs pour leur arracher les pétins. Je sais pas ce que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit, je l'avais poussé. Pour une fois, c'était pas vrai. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. Ça tourne pas rond. Et quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Complètement dingue quand
oui,
même.
Oui, alors ça, on n'arrête pas de vous le dire toutes les semaines, que c'est complètement dingue de revoir sans arrêt les mêmes films au même endroit.
Et pourtant,
on
jamais vraiment les mêmes.
C'est jamais vraiment les mêmes parce qu'ils sont toujours différents. Mais c'est ça qui est fou.
C'est notre regard qui est différent.
C'est notre regard. Bouge pas, lui. Notre regard est différent en fonction de l'heure, en fonction de la fatigue, en fonction de l'alcool que l'on a bu, avec modération. Mais tout ça, on peut le voir. Tout ça, on peut le voir, vous savez où?
Mais non.
Sur notre canapé en regardant des films à la télévision.
Mais c'est incroyable,
mais
bon sang,
mais c'est bien sûr. Alors voilà notre chronique ciné, télé, canapé.
Donc les films qui vont se passer dans la semaine à venir.
Dans les films qui vont se passer dans la semaine à venir à la télévision. Voilà.
Tout à fait.
Oui. Allez-y, Jeanne-Lise.
Jeanne-Lise.
Et Anne-Jacques.
Bah écoutez, alors moi on va aller de loin parce qu'on va aller lundi.
Oh. Ah oui, quand même.
Oui, tout à fait. Lundi 9 mars à 20h55 sur Arte.
Art.
C'est un film de Louise Buñuel.
Oh là.
Avec Jeanne Moreau et Michel Piccoli. Mm-hmm. Ça s'appelle Le journal d'une femme de chambre. Oui. Célestine arrive sur Paris pour prendre la place d'une femme de chambre chez les Montel, une riche famille normande. Elle fait la connaissance de la patronne, qui est froide, un peu bigote, et de son père, un étrange fétichiste des bottines. Alors, les autres domestiques et les voisins ont beau la mettre en garde, Célestine va s'amuser de la situation. Et c'est un film de Louise Buñuel, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu son œil. Complètement surréaliste. Mmh. En même temps, il y a un côté assez drôle aussi. Oui. Ça marque une époque.
Un peu équivoque et un peu pervers.
Très équivoque et complètement pervers, mais c'était assumé chez Louise Buñuel de toute façon.
Totalement.
Et c'est ça qui est assez chouette aussi, c'est cette nouvelle vague, en fait.
C'est un film de quelle année
C'est une bonne question. Je sais
pas
du tout.
60,
ouais, c'est ça.
60,
il me semble, oui. Et c'est assez chouette, c'est à voir et à revoir, parce que Louise Buñuel, on l'oublie. Et c'est chouette de pouvoir le revoir à la télé, on n'en voit pas souvent. Donc voilà.
Bon, alors rappelez-nous, c'est à quelle heure?
Alors c'est à 20h55, lundi 9 mars, sur Arte.
D'accord. J'y vais, Patrick?
Oui, allez-y. Bon.
Dimanche.
Manche.
Ah oui, alors quand c'est pas l'un, c'est l'autre.
Il fallait.
Dimanche 8 mars à 19h15 sur TCM Cinéma, La vieille dame indigne, film de 65 réalisé par René Alliot d'après une nouvelle de Bertolt Brecht. Alors, nous sommes à Marseille et Madame Bertini se retrouve seule à la mort de son mari. Donc tous ses enfants sont mariés, ils sont partis, ils ont quitté la région. Notamment Gaston qui a réussi dans les affaires. Il n'y a que Albert qui est resté à Marseille. Voilà, et entre l'amour familial et l'intérêt pour l'héritage, les deux fils aînés chargent à s'accaparer de leur mère, quoi. Mais celle-ci décline leur invitation. Et qu'est-ce qu'elle fait? Avec un peu d'argent reçu des ventes de l'imprimerie familiale, elle achète une petite voiture et sous les yeux éberlués de son petit-fils Pierre, elle part à l'aventure en compagnie d'une jolie serveuse. Alors, la musique du film est signée Jean Ferrat, excusez du peu. Brecht, c'est Ferrat, il y a quand même des références. Et pour la distribution, Étienne Bierry joue Albert, François Mestre incarne Gaston, Victor Lanoux et le petit-fils. On retrouve également Jean Bouise, qui était un peu partout à l'époque. Et surtout, surtout dans le rôle de la vieille dame, Sylvie, au regard si dur, vous vous rappelez
d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Oui.
Elle était âgée à l'époque de 82 ans. Et ce fut d'ailleurs son dernier rôle, quoi. Voilà, ça s'appelle La vieille dame indigne, et c'est dimanche 8 mars à 19h15. Sur TCM Cinéma.
Eh ben, très bien.
Très bien, parfait. Et c'est 64.
Le journal d'une femme de ménage. Eh ben voilà, tout à fait.
Eh bien moi, je vous propose le même jour que vous, Jean-Jacques, il va falloir choisir.
Mais non, à quelle heure? Incroyable.
À 21h sur Canal Plus Cinéma.
C'est bon.
Attention, c'est du lourd.
Non, ça y est.
Et c'est très très d'actualité surtout.
Bon.
C'est un film qui s'appelle Lire Lolita à Téhéran.
Ah. D'accord. Oui.
Et oui, vous savez pourquoi. C'est un film d'Eran Rikilis avec Goshifet Farahani, Zahar Amir Brahmabrani. Alors, Azar Nasifi est professeur à l'université de Téhéran et elle réunit secrètement sept de ses étudiantes pour lire des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes se retrouvent, retirent leur voile et discutent de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Et alors pour elles, lire Lolita, à Téhéran donc, et c'est célébrer le pouvoir libérateur de la littérature. Alors, on peut parler du côté un peu sulfureux du livre, mais en même temps, on ne peut pas nier que c'est un véritable acte de résistance que de se livrer à ces lectures-là, et que c'est un acte extrêmement courageux, et qu'il faut encourager les femmes à Téhéran, il faut encourager les femmes partout quand elles sont opprimées.
Les femmes et les hommes, d'ailleurs.
Oui, les hommes sont responsables de leur oppression.
Oui,
tous,
voilà.
Les femmes ne sont pas responsables
pas tous,
de leur oppression.
Bon, c'est surtout les femmes qui mordent.
Très bien.
Tout à fait.
Alors, bien entendu, il y a d'autres films qui passent dans la semaine.
Oui, bien sûr, mardi 3 mars, il y a Rio Bravo,
par exemple. Tout à fait.
Mais on va arrêter avec ça, on va retourner à Jean Gabin.
D'accord, ok, très bien.
D'accord.
Retourne à Jean Gabin.
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Jean Gabin est à Hollywood.
Oui.
Sa carrière américaine ne décolle pas. Alors, il fait un choix rare pour une star de son rang, n'est-ce pas? Il s'engage dans les forces françaises libres du général Charles de Gaulle.
Oui.
Il participera à la campagne d'Afrique du Nord et d'ailleurs il sera décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre, mais il n'en parlera presque jamais.
Et non. Et après la guerre, pourtant, le public l'a un peu oublié.
Et oui.
Les modes changent, les visages aussi. Gabin, il finit par douter. Il se retire dans sa ferme normande. Il élève des chevaux. On raconte qu'il parlait davantage de ses écuries que de ses films. Beaucoup pensent alors que son époque est passée.
Et puis,
en 54, tout bascule.
Dans « Touchez pas au Grisby » de Jacques Becker, Gabin revient transformé. Il n'est plus le jeune premier tragique, il devient le patriarche, l'homme d'expérience, celui qui sait. Son jeu change, moins de gestes, moins d'effets. Moins on en fait, mieux ça vaut, disait-il.
Alors cela aurait pu être très bien une des répliques que les dialoguistes lui ont mis dans la bouche, mais tiens, en voici quelques-unes, en parlant de ça.
Regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout. Du mou, rien que du mou. Bon, tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et non, t'as la rombière, la gueule en gélatine et sans doux, trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister?
Je te préviens que si jamais un jour tu me ramènes un gosse de ce mec-là, je le fais empailler, je le mets sous globe. Je veux que les Martiens voient ça, hein.
Tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, ben je mettrais ça ailleurs.
Qu'est-ce que je disais? Il serait mieux près de la fenêtre. Tu le verrais où, toi?
À la cave.
Regarde, graffe un peu les valoches que t'as sous les yeux, regarde les miennes. Et puis ça, et ça. Crois que c'est beau, hein?
Ça court les rues, les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
Si jamais le garde du corps fait du sproum, dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard, je t'ai pas cru, mais finalement, je crois bien que c'est toi qui as raison. Faut jamais contrarier les vocations. Les tocards sont toujours d'accord avec n'importe qui et n'importe quel bloc.
Jambier, je veux 2000 francs, Jambier, 45 rue Palimau.
Et voilà.
Face aux jeunes loups comme Jean-Paul Belmondo dans Un singe en hiver, il impressionne par son calme, il connaît son texte au mot près, il joue juste, immédiatement, sans démonstration.
Ah oui, ça, c'est sûr. Et derrière l'image de l'homme dur, il y avait une immense pudeur. Il fuyait le végétariat, refusait de se livrer. Il revendiquait ses origines modestes. « Je ne suis pas un intellectuel », répétait-il. Mais il aura incarné mieux que quiconque les fidélités, les colères et les silences d'une génération entière. Quand il meurt en 76, ce n'est pas seulement un acteur qui disparaît, mais c'est une certaine idée du cinéma français. Et aujourd'hui encore, il suffit d'entendre cette voix, de croiser ce regard à l'écran pour comprendre que Jean Gabin ne jouait pas les héros, il était simplement, puissamment humain.
Et c'est vrai qu'il travaillait très peu ses textes, enfin il travaillait ses textes, mais il arrivait très vite à la vérité. Oui. Et c'est lui qui disait « texte su, tête faite
oui. »
pour dire qu'il fallait connaître son
texte pour son personnage.
Ouais. Alors Anne-Lise,
oui.
Vous êtes là. Vous parliez un peu plus tôt là, de ces rôles de patriarche que Gabin a joué, de ces hommes d'expérience qui savaient. Et ben, en 1974, c'est ce qu'il affirme dans la chanson « Maintenant je sais, avec tous les doutes que ça comprend ».
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant de soirs de tristesse. Mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Mais bien sûr, sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Alors, si vous voulez, on va revenir à nos seconds rôles féminins.
Revenons-y.
Alors, après les rigolotes et les dramatiques, voici venir les garces.
Ah.
Avec son tempérament généreux au service d'un physique savoureux, Viviane Romance fut la vampe par excellence du cinéma français. Cette brune capiteuse n'arrivera jamais à se débarrasser des rôles de garces et de femmes fatales.
Alors après les garces, voici les femmes mûres. Ah, oui. Avec deux éminentes représentantes, Stéphane Audran qui tourne avec Claude Chabrol des drames psychologiques criminels dans lesquels son jeu précis et nuancé, tout en retenue, conférera à ses personnages complexité et mystère.
Le charisme et la voix au timbre si particulier ont permis à Françoise Rosé d'enchaîner les chefs-d'œuvre sous la direction des plus grands cinéastes français. Elle excella dans les rôles de jeunes, de femmes mûrissantes, puis de femmes mûres et enfin de dames âgées.
Alors après, chez les natures, eh bien, il y a Dominique Davray. Je ne sais pas si vous voyez, vous rappelez qui c'était un peu.
Absolument
en,
pas.
Enrobé aussi, vous la connaissez certainement. Elle incarna les femmes accortes et, ou légères, mais au caractère bien trempé. On la remarqua dans le rôle de Madame Mado dans Les Tontons Flingueurs. Ça vous dit?
D'accord, oui, ça me dit ça.
Voilà.
Me dit.
Et puis, il y a Alida Rouf, au verbe haut perché, avec l'accent du Midi. Elle fut irrésistible dans le rôle d'Honorine, la mère de Fanny, dans le film Marius. En 1931.
Figurez-vous qu'hier, j'étais partie à Est comme tous les mercredis. Et au lieu de revenir par le train de 7 heures, je suis revenue avec l'automobile de Monsieur Amour de Dieu que j'avais rencontré sur le course. J'arrive à la maison, j'entre. Sur la table, qu'est-ce que je vois? Deux petits verres, une bouteille de liqueur, et sur une chaise, cette ceinture. Ah, dès que je vois ça, non, ça ne fait qu'un tour. Je vais tout droit à la chambre de Fanny, j'ouvre la porte. Ah, la brigand sort. Oh, sainte mère de Dieu, mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai eu tellement honte, tellement honte. Je suis partie sans faire de bruit. Elle a 18 ans, César, 18 ans. Elle finira comme sa tante Zoé. Mais enfin, qu'est-ce qui aurait pu croire une chose pareille, dites? Une petite sainte mitouche qui faisait la pudeur, qui faisait l'enfant.
Mais pourvu qu'elle ne le fasse pas pour de bon, à présent.
Et vous avez le courage de rire, dites gros sans cœur. Mais vous ne savez pas que c'est affreux ce qui se passe pour moi, que je claque des dents. Que je suis toute estrancinée.
Qu'est-ce que je vous offre?
Je prendrai un mandarin citron.
Et contrairement à ce qu'on peut croire, il me semble qu'Alida Rouf est originaire de Bordeaux. Il faudrait vérifier, mais...
On vérifiera, on donnera ça comme la semaine prochaine.
Non, tout à l'heure, on va donner
tout
ça.
À l'heure. Oui. Alors, honneur à la catégorie des vieilles dames.
Oui, bien sûr.
Hein, parce qu'on a parlé de Françoise Rosé.
Ne dites pas ça en me regardant.
Absolument, vous n'êtes pas une dame et vous n'êtes pas vieille.
Ah oui, pardon.
Hélène Dieudonné, au visage doux, aux cheveux gris, noués en chignon, composa des rôles de grand-mère, de commère et beaucoup de concierge. Elle fut désignée par les lectrices d'un hebdomadaire féminin la plus charmante grand-mère du cinéma français. Tiens, la voici dans Un singe en hiver, film d'Henri Verneuil en 62, où elle joue Joséphine.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Mais madame...
Marie-Thérèse, rappelez-vous. Vous êtes bien sortie une fois avec un garçon.
Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons.
Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir.
Mais non, madame, je vous jure, je ne vais jamais au bal.
Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire.
Criez pas.
Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible.
Mais madame, je vous jure... que j'attends un pipi, hein. Ça c'est sûr, mais que je n'ai jamais couché avec un garçon.
De 1970 à 2020, Dani aura joué les seconds rôles dans 24 films. Elle aura également sorti 8 albums. En 2001, elle interprétait comme un boomerang une chanson de Serge Gainsbourg en duo avec Étienne Dao.
Des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un
presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté, de ma mémoire qu'à ma bringue, et ton amour m'ont épuisé. Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter, si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des baumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés, à pleurer les larmes dingues d'accord que je t'aime.
C'est qui ça? Ça c'est quoi ça?
Ou ça je connais ça.
Oui, et avant, oui, vous vouliez dire quelque chose avant le quiz, Jean-Jacques.
Nous avons parlé d'Hélène Dieudonné tout à l'heure.
Oui,
on l'a pas passé, il y a un petit bug, on a eu un petit bug technique. Et en fait, on est passé directement à Catherine Jacob et Hélène Vincent qu'on retrouvait dans le même film « La vie est un long fleuve tranquille » où il était question d'une domestique enceinte par l'opération du Saint-Esprit.
Oui,
et Hélène Vincent qui, pour son rôle de bourgeoise coincée, avait reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, d'ailleurs. Voilà, oui, c'est tout ce que je voulais rappeler. Un petit problème technique, mais il y en a très rarement
dans cette émission.
Dans Ciné-Sens,
ça arrive rarement.
Alors, c'est quoi ça?
Eh bien, c'est quoi? C'est un petit quiz que je vous ai fait petit, mignon. Voilà. Je vais vous poser des questions. Puis
c'est
vous allez devoir répondre.
Oh oui, c'est bien, j'adore les quiz.
Alors, première question. Quel est le nom de la voix française de Jim Carrey ou Mathieu Perry?
Oh, il est passé au César il n'y a pas longtemps, donc on devrait le connaître.
Fernouille.
Alors, je vous en donne 4 et vous me dites.
D'accord.
4.
Patrick Poivet.
Oui.
Richard Darbois.
Oui.
Benoît Alleman.
Oui.
Emmanuel Curti.
Emmanuel Curti.
Quatrième.
Oh, bravo. Bravo, c'est ça. Emmanuel Curti.
J'ai regardé les Césars, on cliffait.
Mais ouais, voilà.
Bon, ça, c'est...
Ça, c'était facile.
Un point pour
mise
Pat.
En bouche.
Ouais,
mise
allez,
en...
je vous mets un petit extrait.
Allez, mettez-nous un petit extrait.
De voix, et vous allez me dire...
I'm looking for my wife.
Il y a des silences.
Oui, il y a des silences. Bah oui, c'est un extrait de film.
Oui, un film muet, alors.
Non, c'est pas un film muet, mais vous allez voir, vous allez entendre la voix.
Oui.
Oui.
Et vous allez devoir savoir qui parle.
Ok.
Ok.
Voir le titre du film.
La l'image.
Ok.
Oh non, vous regardez pas, Patrick. Vous
this
vous
is
trichez.
And this is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that?
C'est un acteur américain.
Bravo. Bien joué.
Qui parle anglais.
Oui, tout à fait.
Et qui est un homme.
Il a tourné dans un film.
You know, in the living room, they send me in there.
Jack Nicholson?
I do it alone. And now I just...
Ryan Gosling?
Non.
C'est un jeune?
Plus trop.
Plus trop. Alors c'est Robert Duvall.
Non.
Kevin Costner.
Non.
Bon, mais il parle alors... pas beaucoup, ce monsieur, donc ça va être compliqué.
Ouais, c'est compliqué.
Our little project, our company, had a very
Tom Cruise.
Big night.
Oh, joli, bravo. C'est quel film, à votre avis ?
C'est dans La Firme.
Non.
Ah.
C'est pas loin. Il joue un jeune loup aussi dans ce film-là, qui et ben dans cette. Dans
c'est pas le loup de Wall Street.
Non, c'est, non, bah non, c'est pas Tom Cruise dans le loup de Wall Street. Ça.
Vous dites n'importe quoi.
Oh, ça va. On
c'est
se
dans
calme.
Jerry Maguire.
Ah oui, on en a
là,
parlé.
Là, c'est quand il lui. On a parlé il y a pas longtemps et c'est quand en fait il dit à sa femme qu'il a épousée par comme ça un peu sur un coup de tête que bah il l'aime. Mais c'est une scène qui est assez jolie. Voilà.
D'accord.
Ah, allez, encore Patrick.
Ah ouais, ça fait deux.
Encore Patrick.
Bah, deux points pour
moi
Patrick.
Moi j'en ai un quand même.
Oui, un et demi. Allez, un demi. Alors la prochaine question, je pense qu'elle est pour pour les deux.
D'accord.
Elle est assez facile. Bah oui. Bah après ça, il fallait quelque chose de facile. Qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020?
En 2020, l'Oscar du meilleur film, The Artist.
Non.
C'est un film français.
C'est pas un film français.
Non, c'est un film...
Parasite.
Oui.
Parasite. Vous êtes
fort.
Ah, je suis très très fort.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille qui est devant vous?
Il y a du schnapps.
Allez, maintenant on va parler un petit peu de Pasolini et du film italien. Là, c'est pareil, je pense que Jean-Jacques, ça va être à la rapidité. Quel est le film qui provoque un scandale à sa sortie en
75?
Sodome.
Je savais celle-ci, elle allait être facile pour vous, en fait.
J'ai répondu plus vite, si on revoit
c'est
le
vrai.
Ralenti.
C'est
ouais,
vrai.
Mais j'ai répondu quand même.
Oui, mais
oui,
comme
mais...
moi tout à l'heure, excusez-moi.
Donc j'ai
qu'un
demi.
Voilà, très bien. Parfait. Alors donc, 3 points pour moi.
Alors... Et...
Allez, encore une.
Encore, oui.
Qui a écrit la musique du film Promotion Canapé de Didier Carmica, sorti en 90? Je vous donne 4 personnes.
Allez-y.
Ouais, ça va être facile si je vous en
donne. Compositeurs.
Alain Souchon, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy ou Louis Chédid?
Gainsbourg.
Non.
Chédid.
Louis Chédid.
Oui, Louis Chédid. Ouais.
Non, vous l'avez répondu.
Oh, c'est pas...
Vous aviez déjà un joker, vous avez grillé un joker.
C'est vrai que Patrick, c'était sa seule réponse quand même.
Pour une fois qu'il gagne.
Voilà.
Allez, une dernière question.
Oui.
Dans quel film de Tarantino trouve-t-on les personnages de Vincent Vega et Jules Winfield?
Tarantino.
Ouais.
Je vois pas qui c'est.
Les Réservoir Dogs?
Non.
Ah, c'est l'autre.
C'est l'autre. L'autre très connu
c'est
aussi.
C'est l'autre très connu, alors c'est pas Réservoir Dogs.
Usual Suspect, c'est pas...
Non, c'est pas
de lui.
C'est avec Travolta.
Oui, c'est Travolta qui joue le rôle de Vincent Vega.
Et puis c'est avec Jamie Lee Foxx.
Oui.
Et qui joue le grand black.
Pulp Fiction.
Oui, Pulp Fiction. Bravo, Jean-Jacques.
Je remporte le quiz de dernier moment.
C'est kiff, kiff, mais c'est quand même plus Patrick, quand même.
Merci.
Pour une fois que je gagne quelque chose, je remercie mes parents qui m'ont donné cette culture du cinéma. Et donc voilà. Et figurez-vous qu'il est 14h. Et quelques...
14h44.
Et que c'est le moment, vous savez quoi? De 6 décembre. Oui. La séquence, les sorties de demain. Et ça mérite bien un petit jiggle, n'est-ce pas?
tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges? C'est génial ce genre de spectacle, hein?
Ça, c'est vrai, ça!
Ah bah tiens, évidemment.
Bon,
ah bah tiens.
Alors, les sorties
de demain. C'est pour savoir ce qui va sortir demain. Au cinéma, dans ces salles obscures.
Sélection personnelle à chaque fois.
Sélection personnelle,
qui
un
commence.
Film par personne, bien sûr.
Bien sûr.
Eh bien, allez-y, Jean-Jacques.
Bon, j'y vais. J'y vais pour mon film, d'accord. Alors, c'est moitié romance, moitié science-fiction. Je voulais vous parler de ce film qui s'appelle The Bride, qui est de Maggie Gyllenhaal. Vous savez, la sœur de Jack.
Jack Gyllenhaal.
Il joue d'ailleurs dans le film, Jack. On retrouve également le magnifique Kristen Bell.
Ah oui.
Jesse Buckley, Penelope Cruz et Annette Bening. Alors, qui dit le pitch de ce film? On est dans les années 30 et Frank qui est le monstre sacré qui a été créé par... le monstre créé par Frankenstein, qui est joué par Bale et qui est rongé par la solitude. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sort à Chicago, il demande au docteur Euphronius, Eh oui. Un scientifique visionnaire de lui créer une compagne. Ensemble, il ressuscite une jeune femme assassinée et la fiancée prend vie. Ouais, mais ça va là, la suite des événements dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Voilà, c'est un film dont situé entre la romance et la science-fiction et qui est interdit au moins de 12 ans en France. Si vous voulez y aller en famille, c'est pas ce film qu'il faut choisir.
En effet.
Ça s'appelle The Bride de Maggie Gyllenhaal.
Très bien.
Très bien.
Voilà.
Et bah, moi, j'y vais.
Oui, vous, allez-y. Vous
voulez, allez, alors, c'est...
The Bride, vous savez.
Non, du coup, j'en ai cherché un autre parce qu'il faut savoir que Jean-Jacques m'a volé mon film. Voilà, ça c'est dit. C'est un film qui est de Harry Lytton avec Harry Melling, Alexander Skarsgård et Douglas Hodge. C'est l'histoire d'un jeune homme introverti qui ne sait pas trop où il en est, qui rencontre le séduisant et charismatique leader d'un club de motards. Eh bien, Ray l'introduit dans sa communauté et il fait de lui son soumis. Alors, comme ça, ça a l'air bizarre. Ça a l'air très bizarre.
Très bizarre.
Mais en fait, ça a l'air d'être un film aussi très drôle. Qui s'est pris un peu sous le sur la comédie. On va aller entre comédie et drame avec bah bien sûr un penchant un peu érotique et ça a l'air malgré tout assez marrant et on retrouve le magnifique Alexander Skarsgård qui joue dans Tarzan.
Comme quoi l'érotisme peut être drôle. C'est ce
tout à fait. Voilà. Oui.
Mais
tout
rappelez-moi
à fait.
Le titre du film.
Ça s'appelle Pylon.
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 Pays de Zelouen.
Pays de Zelouen. Pylon.
Okay, très bien.
Pylon.
Patrick.
Pylon Dollar Baby. Eh bien, moi, je vais vous parler
quoi.
D'un.
Vous dites n'importe quoi.
Je vais
vraiment.
Vous parler d'un film canadien.
Ah, bah super.
Parce que j'adore les films canadiens, vous savez.
Oui,
c'est un film
celui-là.
De Chloé Robichaud, écrit par Catherine Léger, avec Laurence Leboeuf, Catherine Gontier-Hindman et Félix Moati. Le titre, c'est Deux femmes et quelques hommes. Alors, Violette et Florence sont voisines de palier et s'observent. L'une est en congé maternité, est à fleur de peau, l'autre en arrêt de travail et ne ressent plus rien. Leur rencontre bouscule soudain leur quotidien monotone et leur regard sur les hommes. Et s'il était temps d'envisager une révolution sexuelle, pense-t-elle. Alors, c'est un film sur le questionnement, sur l'identité, sur la maternité et ses conséquences. Mais pour moi, il n'y a que des Canadiens pour savoir nous parler de ces choses intimes avec autant ouais. d'humour et de distance. Hein, rappelez-vous le déclin de l'Empire américain, où il était vraiment... complètement question de sexe, mais avec une distance et avec quelque chose d'assez délectable dans le. Et là, le film a l'air très très drôle, vraiment. Les deux comédiennes, Laurence Leboeuf et Karine Gontier-Hindman, ont l'air absolument. Enfin, j'ai vu la bande-annonce, mais donc, sont absolument géniales. Et donc voilà, question d'attirance, éventuellement, peut-être. Est-ce qu'on franchit le pas? Est-ce qu'on le franchit pas? Le pas? Est-ce qu'on franchit pas le pas?
D'accord.
Voilà.
Okay.
Donc je vous
remercie. Si. Donc redites-nous le titre.
Deux femmes et quelques hommes.
Très
D'accord,
bien.
Très bien.
Eh bien voilà.
Oui. Quoi ?
Si naissance est déjà finie.
Ben oui, vous rigolez.
Évidemment. Et oui, évidemment. Jusqu'à ce que tout recommence.
Bien sûr.
Allez, je vous laisse sortir de chez vous, éteindre la radio, mettre un bonnet, des gants, des bottes, mais aussi un t-shirt à manches courtes et des tongs et prendre un parapluie ou une ombrelle.
Ça fait beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses, oui, mais au cas où, pour aller se balader, il faut bien.
Oui.
Tout ça actuellement.
Oh ben oui.
N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à nous réécouter en podcast sur le site d'O2 Radio, rubrique Cinéscent.
Et pour le direct, bah figurez-vous qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Et pour l'occasion, nous retournerons en 2001.
Non.
11.
11. En 2011.
En 2011. 2011, oui.
Enfin, vous faites ce que vous voulez.
Nous, on sera en 2011, vous, si vous voulez être en 2001.
Alors, je serai en 2011 avec vous.
Oui, c'est très bien.
J'ai trop peur tout seul dans le noir.
Et alors, ce sera où?
Et ce sera sur O2 Radio 91.3, bien entendu. Allez, nous allons nous quitter avec la perle du jour dénichée par vous, Jean-Jacques, qui, j'en suis sûre, bourdonnera toute une journée dans votre tête.
Moi,
j'en suis sûre.
Sous les palétuviers est une chanson qui fait partie de l'opérette Toi, c'est moi, créée en 1934. Elle est alors interprétée en duo par Pauline Carton, que revoici, et le chanteur d'opérette René Koval.
Allez, à mardi prochain et en attendant,
bon vent à tous.
fruit défendu vous est donc inconnu. À cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril?
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper, vois-tu, tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font entretiner, je veux bien essayer.
Ah, viens, souffle les pas.
Mais je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les tu aimons-nous sous les pieds. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Ah, merci, je m'éblouis, un baiser c'est exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je veux être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne.
Mon cœur est tout en sa boîte, je te donne mon roi, mon corps au fond des bois.
Ah, viens sous les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les tu aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Palétuviers roses, aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laits, tu aimons-nous sous les biais. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais.